Soyez les bienvenus sur le site de l'Église réformée du Bouclier à Strasbourg. Nous sommes heureux de vous proposer la méditation de ce dimanche.
Le passage biblique que je vous propose de méditer ce matin se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, les versets 25 à 37. Un spécialiste de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains des bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin, il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ? Il répondit, « Celui qui a montré de la compassion envers lui. » Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Quand je vous parle du bon samaritain, je suis sûr que vous voyez parfaitement quelle signification apporter à cette expression. Il y a des hôpitaux et même des compagnies d'ambulance qui portent le nom du bon samaritain. Nous avons des lois dans notre code pénal, dites lois du bon samaritain, qui décident de l'aide que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas accorder à des victimes d'accidents dont vous pourriez être témoin. De nombreuses associations caritatives, principalement anglo-saxonnes, se réfèrent au bon samaritain. Nous enseignons même à nos enfants à devenir de bons samaritains. Ce terme de bon samaritain coule de source pour nous si facilement que nous avons oublié qu'au temps de Jésus, le terme de bon samaritain était un oxymoron. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un oxymoron ? L'oxymoron permet de décrire une situation ou un personnage de manière inattendue et d'exprimer quelque chose qui est difficilement concevable, suscitant ainsi la surprise. En effet, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, il y avait eu une guerre au cours de laquelle les Juifs qui vivaient dans le nord, en Samarie, avaient subi une défaite. Certains avaient été tués, d'autres avaient été contraints d'aller en exil. Mais il y en avait quelques-uns qui étaient considérés comme si peu importants qu'on leur avait permis de rester en Samarie, alors que les autres, les gens qui appartenaient à l'élite, avaient dû partir et s'exiler. Dans les années qui ont suivi, ces Juifs restés sur place se sont mariés avec d'autres personnes, d'autres races, et d'autres religions. Ceux que l'on appelait les vrais juifs considéraient ces gens comme des bâtards parce qu'ils avaient perverti leur race et leur religion. La montagne sainte où il convenait de prier Dieu était pour les Samaritains le mont Garizim et pas du tout Jérusalem. Ces Samaritains interprétaient aussi la Torah de manière différente. L'animosité entre les Samaritains et les Juifs était devenue si importante qu'au temps de Jésus, beaucoup de Juifs avaient l'habitude de faire des détours importants pour éviter de marcher en territoire samaritain. Pour les Juifs, il n'y avait pas de bons Samaritains. Pour beaucoup d'entre eux, le seul vrai bon Samaritain était un Samaritain mort. Nous devons nous souvenir de cela quand nous écoutons l'histoire que Jésus nous raconte dans l'Évangile d'aujourd'hui. Il faut aussi que nous nous souvenions pourquoi Jésus raconte cette histoire. Un docteur de la loi, voulant se justifier, commence une conversation avec Jésus. « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» demande-t-il. Faisons une petite pause à ce moment de notre histoire et réfléchissons une minute à cette question. Voilà une des questions des plus stupides que quelqu'un puisse poser. Il n'y a rien que l'on puisse faire pour hériter quelque chose. Soit vous l'héritez, soit vous ne l'héritez pas. Soit vous appartenez à la famille, soit vous êtes un outsider. Et si vous êtes un outsider, vous ne pouvez rien faire pour devenir un héritier. L'héritage est décidé par celui qui le donne et pas par celui qui le reçoit. Jésus demande au docteur de la loi ce que la Torah dit à ce sujet. Le docteur de la loi lui dit « Vous devez aimer Dieu et votre prochain. » Jésus lui répond « Fais ceci et tu vivras. » Mais notre juriste n'est toujours pas satisfait. Il lui faut continuer et demander une définition de qui est son prochain. Ce que le docteur de la loi avait en tête, bien entendu, c'est que n'importe quel autre juif était son prochain. Mais n'importe qui n'est pas juif et qui n'est pas juif n'est forcément pas son prochain. Alors Jésus lui raconte cette parabole en réponse à sa question « Qui est mon prochain ?» C'est donc l'histoire d'un homme sur la route de Jérusalem à Jéricho, sauvagement battu, dévalisé et laissé plus qu'à moitié mort au bord de la route. Un prêtre juif passe à côté de lui et l'ignore. Un lévite juif qui était de service au temple passe à côté de lui, mais l'ignore. Puis un Samaritain passe à proximité et est ému de pitié. Il s'approche de l'homme blessé et panse ses plaies. Il l'aide à aller jusqu'à l'auberge et y passe une journée à s'occuper de lui. Puis il paye l'aubergiste en avance pour les repas et le logement du blessé et promet de payer encore davantage à son retour si l'état de l'homme devait l'exiger. À nouveau, Jésus se tourne vers le docteur de la loi et lui demande « Lequel de ces trois hommes, penses-tu, aura été le prochain de l'homme tombé en embuscade ?» Bien joué, Jésus ! Il a pris au piège le docteur de la loi, n'est-ce pas ? Jésus a raconté cette parabole d'une telle manière que le docteur de la loi a dû simplement admettre que dans ce cas, ni le prêtre juif, ni le lévite juif n'ont été le prochain de ce pauvre homme, mais bien le Samaritain non-juif qui était méprisé et haï. Mais le docteur de la loi se tire d'affaire tout en ne pouvant pas prononcer l'horrible mot de Samaritain. Aussi dit-il, celui qui a fait preuve de miséricorde. Alors Jésus lui répond, va et fais de même. Si vous interprétez cette histoire en considérant que Jésus veut que nous allions tous notre chemin de vie en ressemblant aux Samaritains, je pense, moi, que vous aurez compris la parabole à l'envers. Jésus a voulu que nous nous identifions à l'homme qui était dans le caniveau. Il voulait que nous soyons ouverts à la possibilité que des personnes dont nous ne pourrions normalement attendre qu'elles se comportent comme des frères et des sœurs nous aident, puissent nous ignorer, alors que d'autres dont nous n'aurions jamais attendu spontanément de l'aide puissent justement être ceux et celles qui ont été là pour nous au moment où cela était nécessaire. Je ne sais pas pour vous, mais à moi, cela m'est arrivé et m'a déjà fait réfléchir. Jésus n'est pas là pour nous demander de nous occuper des victimes qui croisent notre chemin. Il y a beaucoup d'autres occasions dans les évangiles où il nous donne ces instructions-là de façon claire et précise. Ici, il nous enseigne qui est notre prochain. Le docteur de la loi n'a pas imaginé qu'un Samaritain puisse devenir son prochain. Mais dans cette parabole, Jésus nous a montré comment un Samaritain peut être notre prochain et en fait devenir pour nous un voisin exceptionnel. Transposons cela dans le monde dans lequel nous vivons. La leçon pour nous aujourd'hui est que nous pouvons exclure aucun autre être humain comme voisin potentiel. C'est ainsi qu'un socialiste pourra être aidé par quelqu'un qui vote Front National, un pro-mariage pour tous pourra être aidé par un anti-mariage pour tous, un maghrébin immigré pourra aider un habitant du quartier des 15 ou de la Robertso, ou à l'inverse, un noir pourra aider un blanc, un sioniste pourra être secouru par un arabe, une féministe stridente pourra être aidée par un mâle macho, un chrétien pourra être aidé par un athée ou à l'inverse, etc. Des exemples, vous en avez tous, comme moi. Mettre des stéréotypes sur les gens ou les ranger dans des cases est malheureusement très fréquent dans le monde dans lequel nous vivons, mais cela aboutit à des divisions difficiles à supporter dans notre société en ne donnant pas la possibilité à certains groupes de personnes d'être pour nous de vrais voisins, prête à nous aider et à nous secourir en cas de besoin. Mais notre histoire se poursuit et va encore plus loin. Souvenez-vous comment le docteur de la loi voulait savoir ce qu'il devait faire pour hériter la vie éternelle. Le docteur de la loi voulait faire quelque chose, contrôler la situation, être proactif dans l'acquisition de son salut personnel. Ce que Jésus a fait dans cette histoire, c'est de nous faire le portrait d'un homme couché sur le bord de la route qui n'était plus capable de faire quoi que ce soit. Le docteur de la loi voyait la foi comme une lutte pour obtenir quelque chose. Jésus, lui, nous décrit la foi comme un abandon. L'homme couché au bord de la route ne pouvait pas contrôler le prêtre ou le lévite au moment où il passait à côté de lui. De même, il ne pouvait pas contrôler le Samaritain. Il ne peut qu'être étendu là et recevoir ce qui lui est donné. Il est impuissant, totalement à la merci des gens qui passent à côté de lui. Quand Jésus dit « va et fais de même », il voulait dire que nous devons être comme l'homme étendu au bord de la route. Nous devons reconnaître que nous sommes totalement incapables d'avoir quelque contrôle que ce soit sur notre salut. Dans notre relation avec Dieu, il n'y a rien que nous puissions faire pour hériter de la vie éternelle. Nous sommes totalement à la merci de Dieu. Tout effort de notre part dans cette direction est futile. La seule chose que nous puissions faire est de recevoir ce que Dieu nous offre. Tout ce que nous puissions faire, c'est lâcher prise et faire confiance et finalement laisser Dieu être Dieu. Je crois que Jésus est le prototype du Samaritain dans cette histoire. Je crois que Jésus nous raconte ici une histoire à propos de lui-même. Après tout, il a été considéré comme un original, voire un excentrique, quand on considérait sa judéité. Il interprétait souvent les écritures hébraïques autrement que les juifs de son époque. Il ne suivait pas les lois de la purification rituelle. Il se mélangeait avec des lépreux impurs, des prostituées et des collecteurs d'impôts. Pour beaucoup de gens de son époque, Jésus était considéré comme un outsider à côté de la vraie foi juive. Pour beaucoup de juifs, il était considéré comme un samaritain et parfois bien moins qu'un samaritain. Quand on examine cette histoire avec cet éclairage, elle prend une signification encore plus importante. il n'y a aucun d'entre nous qui n'ait pas souffert à un moment de sa vie d'un revers de fortune, qu'il soit familial, relationnel, professionnel, financier, et j'en passe. Il n'y en a pas un d'entre nous qui n'ait pas été secoué, abattu, terrassé par des retournements bizarres de situations dans nos vies, au point où nous avons tous expérimenté de grandes pertes et des deuils en tout genre, et peut-être la majorité d'entre nous s'est déjà l'une ou l'autre fois retrouvée couchée et blessée physiquement ou le plus souvent psychiquement, pour une raison ou une autre, sur le bas-côté de notre chemin de vie. Nous nous sommes retrouvés en situation de victime abusée et rejetée par les autres dans la société, éloignés ou aliénés de Dieu et déshérités. Et à ce moment de nos vies, nous n'avions pas d'autre choix que de nous laisser prendre en charge par qui nous trouverait. Mais à ce moment-là est arrivé cet étrange étranger dénommé Jésus de Nazareth. Notre instinct nous disait qu'il était notre ennemi, qu'il nous ferait beaucoup de mal, qu'il nous condamnerait pour avoir été stupides au point de faire en sorte que nous soyons des victimes de la vie. Mais Jésus, l'ennemi, s'est révélé être Jésus, notre ami et notre sauveur. Il ne méprise pas notre nudité. Il ne se détourne pas de nos blessures malodorantes et insupportables à voir. Il nous lave de notre péché et de notre culpabilité. Il nous conduit vers l'auberge que nous appelons l'Église, notre paroisse où nous serons en sécurité. Et il paye le prix nécessaire pour que nous puissions continuer à vivre après notre mort en toute éternité. Dans le sacrement du baptême, notre Seigneur Jésus-Christ vient à nous dans notre état d'impuissance, dans lequel aucun effort de notre part ne pourra nous sauver, dans lequel aucun effort ne pourra nous rendre assez dignes d'hériter la vie éternelle. Dans le sacrement du baptême, il vient à nous, que nous soyons jeunes ou vieux. Il panse nos plaies, nous conduit vers une auberge sûre et nous fournit la vie éternelle. Dans le sacrement du baptême, l'étrange étranger dénommé Jésus de Nazareth devient le meilleur voisin, plus et proche que vous et moi puissions avoir dans notre vie à jamais. Amen.
Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Que la parole de Dieu soit pour vous l'assurance de son amour et de sa paix.